Viens, l'Esprit
de sainteté,
viens, l'Esprit de
lumière,
viens, l'Esprit de feu,
viens
de nous embraser. Que la Sainte Mère de Dieu accompagne nos réflexions. Alors, je n'ai pris que des notes. J'ai été très perturbé par, en dernier lieu, par avec tout ce qui s'était passé chez nous avec la mort de Anne. Enfin, c'est pas, ça justifie pas, mais enfin, c'est quand même. Ça a été difficile, disons. Et alors, je commence ainsi. Dans notre histoire humaine, chaque génération a ses réussites, ses échecs, ses joies et ses souffrances. Moi, je suis de la génération d'après la guerre de 39-45. Et j'ai vu les gens oublier la guerre aussi vite qu'elle a été terminée pour se jeter sur des biens de consommation. Au même moment, l'Église voulait elle aussi se reconstruire. Et ce fut les pèlerinages. Et je me souviens de Notre-Dame de Boulogne, qui est passée de ville en ville. Voilà. Donc, après cet effondrement qu'a été la guerre, les gens n'avaient plus aucun besoin du secours d'en haut. C'est toujours pareil. On oublie. Et ils se jettent donc sur les biens de consommation. Je me souviens de. On reconstruisait. Il y avait les Américains à Châteauroux. On reconstruisait la vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire que chaque époque est marquée avec des réalités spirituelles différentes. Et c'est le mystère de l'histoire. Alors, je me suis posé cette question. Comment l'espérance vivait-elle, pouvait-elle vivre, comment elle était vécue plutôt à chacune de ces grandes périodes de l'histoire. Et c'est ainsi que j'ai essayé de construire une sorte d'histoire de l'espérance au long des siècles. Voilà. Ça a été mon travail. Commençons donc par l'époque la plus reculée, celle que la Bible nous présente sous le nom de l'Éden, l'époque fondatrice où Dieu crée le monde et les hommes à son image. Comment, à ce moment-là, les hommes vivaient-ils l'espérance? C'est donc la décision divine de créer un être à son image et ressemblance et lui donner un lieu de bonheur. Pourquoi? Parce que par un surcroît d'amour, Dieu, qui n'a besoin de rien, décide de faire partager son bonheur et sa gloire. Et pour cela, il va créer un homme à son image. Il le fit esprit. Pourquoi il le fit esprit? C'est parce que lui-même est esprit. Et esprit, par contre, esprit incarné, pour qu'il soit parfaitement à son image et à sa ressemblance. Et c'est alors que l'homme sort des mains de Dieu. Il est créé comme esprit, mais esprit particulier, esprit charnel. Ayant pour exprimer cet esprit un corps de chair, qui est un organisme, mais qui lui aussi doit être, d'une certaine façon, à l'image de l'Esprit divin. Et le lieu crée cet homme, cet esprit incarné, cet esprit charnel, dans le seul but qu'il puisse le connaître et l'aimer. Et ça, c'est le fondement absolu de l'histoire humaine. Nous sommes donc dès l'origine, pris par Dieu, nous sommes porteurs d'un souffle de vie qui manifeste une vie d'esprit dans un organisme charnel. Et cet esprit que nous recevons est insaisissable. Il est partout répandu dans notre corps, dans toutes nos facultés. Et il nous donne de pouvoir à notre âme, d'exister. Cet esprit est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier de la chair, il va la quitter au moment où le corps lui-même va disparaître. Il n'est pas comme les anges, un esprit pur, qui eux aussi ont quand même un organisme angélique, mais un organisme qui leur est propre et que nous ignorons. Ainsi, par mon esprit, je vais pouvoir exister, agir de différentes façons, et je vais vivre cette condition humaine dans un espace-temps, qui est celui où nous sommes en ce moment, avec, dans mon esprit, des facultés particulière qui permet de m'adapter à ce monde et de le connaître. Et pour cela, Dieu effectivement a donné à mon esprit humain des fonctions dont les deux principales sont la connaissance et l'amour. Alors, la connaissance, c'est directement quelque chose qui est l'image du verbe. Et l'amour, c'est quelque chose qui est plus directement référé au Saint-Esprit. Et pour faire fonctionner ces facultés, Dieu va ajouter des vertus. Les vertus qui sont des forces. Les trois vertus de force, d'amour et d'espérance. Et chacune de ces forces est animée par l'esprit. Ces forces sont des productions de l'esprit en vue d'acquérir le bien. Quel bien? Alors, quel bien fondamental faut-il acquérir? C'est la connaissance et l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle le Seigneur va créer un homme à son image, à ressemblance, lui donner un esprit semblable au sien, c'est pour le connaître et pour l'aimer. Et ce sera l'histoire même de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. L'humanité n'a pas d'autre sens que de connaître et d'aimer Dieu. Est-ce que dans cette première partie où l'homme qui reçoit l'esprit charnel s'aperçoit bien que cet esprit diffère des animaux, puisqu'il lui permet d'avoir ses fonctions essentielles. Et Dieu veut donc créer ce premier homme avec cette caractéristique qu'il est son fils. La Bible va le prouver en faisant défiler devant lui tous les animaux. On peut dire que le premier homme, c'est un fils, c'est un fils de Dieu. Et l'on verra plus tard que, à cause de la chute, le vrai fils de Dieu se manifestera plus tard. Mais déjà, Adam est un fils de Dieu. Il est appelé à vivre dans ce monde qu'on appelle l'Éden, c'est-à-dire un monde merveilleux, dans lequel il peut travailler, agir. C'est une vie qui se fait sous le regard de Dieu. Et Dieu lui est présent. La Bible dit que le soir même, Dieu vient visiter les siens pour leur demander comment ça s'était passé dans la journée, etc. Qu'il y a donc une familiarité essentielle du Fils, Adam, Fils de Dieu, avec Dieu qui est son Père. Alors, dans ce premier temps, où Adam est heureux, vit dans la connaissance, dans l'amour de Dieu son Père, faut-il ? Est-ce que l'espérance existe ? Moi, je me suis dit qu'elle n'existait pas. Que, en fait, le Seigneur avait donné un esprit, mais la faculté de l'espérance n'existait pas. Pourquoi ? Parce que il a tout ce qu'il veut. Il voit. Pourrait-il espérer quelque chose d'autre que ce qu'il a, que ce qu'il trouve à ce moment-là ? On verra les questions après. Donc, je trouve qu'à ce moment-là, dans ce temps de l'Éden, l'homme n'avait pas besoin de la vertu de l'espérance, puisqu'il aimait et connaissait directement Dieu. Eh bien, ce temps n'a pas duré, on ne sait pas ce qui s'est passé, bien sûr, mais ce qu'on sait, c'est que ça s'est terminé avec la chute d'Adam, qui est en fait le résultat d'une chute qui a eu lieu dans le monde angélique, comme on le sait, et conduite par l'ange merveilleux qui était Lucifer. Après un dur combat dans le ciel qui a été mené par l'archange Saint-Michel et ses anges fidèles, les anges d'une certaine enfin ces anges rebelles déchus sont tombés sur la terre, ou de toute façon avec Satan ont eu la possibilité de rencontrer l'homme et de le pervertir, et c'est alors que tout ce qui était de la joie d'exister, de la relation à Dieu, va maintenant être brisé. On a un chant que j'aime beaucoup. Adam pleure à ce moment-là le drame de sa vie, d'avoir accepté donc la désobéissance que lui proposait l'ange déchu. Adam pleurait en disant: mon âme languit après le Seigneur, et je le cherche maintenant avec des larmes. Quand j'étais avec lui, mon âme était joyeuse, sereine, mais à présent l'esprit mauvais a pris pouvoir sur moi. C'est pourquoi mon âme désire mourir, et elle désire de nouveau de voir et d'être comblée par Dieu. Rien ne peut consoler mon âme. Oh, aie pitié de moi, mon Dieu, pitié de ta créature tombée. Jadis, j'étais joyeux. L'Esprit de Dieu me réjouissait. Je ne connaissais aucune souffrance. Mais lorsque je fus chassé du paradis, le froid et la faim commencèrent à me torturer. Les animaux et les oiseaux qui étaient doux dans le paradis et qui m'aimaient devinrent sauvages. Ils se mirent à me craindre, à me fuir. De mauvaises pensées m'assaillirent. Les maladies de toutes sortes de souffrances me tourmentèrent. J'ai pourtant tout enduré et j'ai fermement espéré en Dieu. Si Adam espère, c'est qu'il a maintenant la vertu de l'espérance. Ça veut dire que certainement, enfin moi je vois les choses comme ça, hein, Dieu a dû ajouter, si on veut, une vertu dont Adam n'avait pas besoin dans un état premier d'Éden, mais dont il aura maintenant besoin pour se ressouvenir, pour se souvenir des conséquences de la chute, afin de demander pardon au Seigneur et de se repentir. Alors, néanmoins, Dieu le laisse quand même son ami, Dieu le garde comme son fils de Dieu, et par miséricorde, il lui accorde cette vertu de l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance ? C'est donc une faculté nouvelle que reçoit l'esprit d'Adam pour continuer sa relation à Dieu, même si ce n'est plus la même relation qu'avant. Désormais, Adam devra chercher Dieu dans l'obscurité de son esprit. La vertu, et Dieu va ajouter à son esprit une vertu pour faire fonctionner cet esprit, pour faire fonctionner la connaissance et l'amour qu'il a. Et le fond de la chose, le fond du problème, c'est que comme il est fils de Dieu, il faut absolument qu'il reste fils de Dieu. Dieu ne veut pas lui enlever cette identité qu'il lui a donnée. Et toute l'histoire, maintenant, va être vécue dans un état d'obscurité qui va rendre difficile l'obéissance à la volonté de Dieu. Mais l'homme chuté va garder ce que nous sommes, les qualités de l'esprit. En fait, l'espérance peut se considérer comme étant la conséquence de la chute. Puisqu'en Éden, il n'y avait pas besoin d'exister. L'espérance, c'est pour aujourd'hui. C'est un don de notre esprit aujourd'hui pour retrouver l'origine qui est en chacun de nous, le lieu de l'Éden. Et fondamentalement, pour réaliser la volonté de Dieu, qui est de l'aimer, de le connaître et de l'aimer. L'histoire n'aura pas d'autre sens que cela. À la suite d'Adam déchu, nous recevons, même si nous ne voulons pas, un état de misère qui nous rend difficile la connaissance de l'amour de Dieu pour laquelle nous avons été créés. Et l'espérance se présente donc comme une forme, comme une force compensatoire d'un manque. Si nous espérons aujourd'hui, c'est parce que nous ne possédons pas le bien que nous désirons. Et c'est dorénavant notre condition mortelle. Mais Dieu, en nous donnant cette espérance, va l'orienter vers une nouvelle histoire, et qui a pour but de refaire en nous cette qualité de fils que nous avions à l'origine et que dont nous venons de perdre la réalité, la beauté, l'état de fils. Et alors va commencer une nouvelle histoire qui sera celle du messianisme. Le but, c'est de redonner à Adam tout ce qui faisait sa gloire perdue. Ce sera par la venue mystérieuse d'un fils de Dieu qui va régénérer la qualité de fils d'Adam, pécheur. Alors toute l'histoire sera maintenant l'attente, l'espérance de la venue de son fils et qui va rétablir Adam dans sa qualité de fils. Toute l'histoire de l'humanité, après la chute d'Adam, sera l'histoire annoncée désirée du vrai Fils de Dieu qui vient venir pour refaire l'homme. Alors la Bible va faire défiler tous les efforts de l'espérance en vue de la venue de ce Fils. C'est donc ce qu'on appelle le messianisme. Et l'histoire, après Adam, n'a pas d'autre sens que de retrouver dans le Fils de Dieu d'abord le pardon et ensuite la reconstruction d'un homme pécheur. Et c'est le Fils de Dieu qui va permettre cette reconstruction. Le livre des Hébreux parle de générations qui ont espéré, attendu la venue du Messie. Et il faudrait donc faire certainement l'étude du messianisme pour voir comment c'est déroulé, comment les siècles ont vécu cette attente. Alors, de la même façon que le livre des Hébreux, j'ai essayé de penser aussi à ces témoins maintenant de l'histoire qui sont suscités par Dieu pour porter l'espérance jusqu'à la venue du Fils. Le premier de tous, c'est Isaïe, avec son chant de l'Emmanuel. C'est celui qui sera le saint, qui sera l'objet de notre amour. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Isaïe 9, 7. C'est donc l'espérance de celui qui va venir, qui sera le vrai Fils. Il vient pour transformer l'homme par le don du Saint-Esprit. Transformer l'homme parce que lui-même sera le Fils unique, l'engendré éternellement, l'héritier de toute la gloire du Père. Adam n'a pas été capable d'offrir le sacrifice saint. Alors c'est le Christ lui-même qui le fera. Et pour cela, nous dit Isaïe, il devra être le serviteur innocent que Satan voudra éliminer. Et ce sont là tous les chants du serviteur, tous les chants du serviteur en Isaïe à partir du chapitre 40. Le service de ce serviteur sera un véritable service d'adoration, de louange, qu'Adam ne pouvait pas avoir refusé de vivre, et que seul, vraiment, le Fils de Dieu peut offrir. Et par le Fils naîtra un peuple nouveau. Mais ce sacrifice de louange devra naître du sacrifice d'humanité que Jésus, qui va expier pour nos péchés et pour rendre le véritable culte au Père. Alors l'histoire humaine, c'est vraiment cette histoire de Dieu parmi les hommes. Il n'y a pas d'autre sens à l'humanité que de devenir une humanité qui va être sanctifiée par le Christ. Elle, à l'origine, elle a été avortée, et c'est le Fils lui-même qui va la réaliser pour l'adoration du Père. Et ce peuple nouveau sera aussi un peuple angélique qui sera purifié, lui aussi, par le combat de l'archange Saint-Michel. Après Isaïe, c'est le prophète Ézéchiel. Et de nouveau, Dieu envoie le prophète pour libérer le peuple de son exil à Babylone, le symbole du règne de Satan. Ce peuple va connaître les misères de l'exil, parce qu'il a péché. Et ce sera toujours la cause de tous les malheurs de l'humanité. Seule la sainteté est digne du Dieu trois fois saint. L'espérance aura alors le sens de la délivrance, de la reconstruction du peuple dans l'obéissance à Dieu. Ce sera toujours ce sens de l'espérance de la souffrance du péché qui devra se repentir pour retrouver son être pardonné, de nouveau christifié dans le Fils de Dieu. La prédication de tous les prophètes, dont saint Jean-Baptiste, aura toujours le même sens. Orienter l'esprit de l'homme vers sa fin véritable, qui est la connaissance de Dieu, la participation à son amour. L'humanité est née de Dieu. Elle a pour père le Père des cieux. Les divers châtiments que Dieu enverra aux hommes n'auront jamais d'autre sens que de retrouver le chemin vers Dieu. Puisque les hommes ont été créés par Dieu, qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils portent en eux l'effigie du Dieu vivant. La nouveauté de l'histoire sera accomplie, elle sera accomplie par la venue du Fils. Eh bien, nous posons souvent la question de l'avenir du monde d'aujourd'hui, de son avenir, de son avenir, qui est incertain, incertaine, comme le dit saint Pierre, et qui risque de se terminer dans le feu. C'est ce que deux Pierre annonce le jour où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Ce sont des cieux nouveaux, une terre nouvelle, que nous attendons selon sa promesse. Là où la justice habitera. 2 Pierre 3:12. Nous savons, nous, que nous appartenons au Christ et que nous sommes désormais des fils dans le Fils unique et que nous sommes par lui participants de la nature divine. Il nous a arrachés à la corruption du péché qui est toujours dans le monde de la convoitise. Une fois de plus, l'espérance a pour sens de redonner à l'histoire, la gloire, l'adoration, le culte du Dieu vivant. Après Isaïe, Ézéchiel, c'est Jean-Baptiste, une voix puissante qui crie dans le désert, « Les temps sont accomplis, convertissez-vous, car il est au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est lui. » Et qui est envoyé pour le pardon des péchés. Au moment où Jean-Baptiste donne la dernière prophétie de l'Ancien Testament et qui va ouvrir les temps nouveaux, Jésus alors est au milieu de son peuple. Jean le Baptiste sait le reconnaître. Ce Jésus est sur cette terre depuis une trentaine d'années. Il est venu combler l'attente de son peuple. Il s'est fait enfant, livré entre les mains de sa mère Marie, docile à son père Joseph. Il est venu non pas comme le pensaient tous les peuples de la terre peuvent le penser, non pas en roi à la puissance du monde. Il est venu en enfant, et qui pouvait le reconnaître ? Dans l'enfant nu de la crèche, dans la crèche. Cette nudité qu'il gardera jusque sur la croix. Et par lui pourtant, maintenant l'espérance est bien accomplie. Il n'y a plus d'espérance messianique, puisque tout le courant messianique était d'annoncer la venue du Fils, du Messie, le vrai Fils de Dieu. Le monde vient de recevoir l'inimaginable don, la présence du droit du Dieu trois fois saint. Peut-être faudra-t-il le reconnaître dans l'humilité. Puisqu'il s'est fait pauvre, dira saint François, il s'est fait humble et pauvre, comme le dit saint François. Étonnant Dieu, un Dieu de puissance absolue, créateur de tout ce qui est sur terre et aux enfers, et qui vient se faire accueillir dans l'humilité du cœur. Un message bouleversant qui restera pour toute l'éternité, le nom de Jésus qui incarne ce message. Alors que sera l'espérance qui a donné son fruit au long des siècles? Sous quelle forme elle peut se manifester maintenant dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est Jean qui va pouvoir nous donner la réponse dans son témoignage de l'Apocalypse. Plus que tout autre écrit, l'Apocalypse est le livre de la manifestation de l'espérance accomplie par son dernier témoin, saint Jean. De ce livre, nous retiendrons la seigneurie absolue du Christ, qui en est le thème central, et l'espérance finale, qui annonce le royaume de la gloire de Dieu, ainsi que le mystère de l'épouse de l'agneau. Saint Jean nous annonce donc une double espérance. La première, c'est l'espérance du salut, un salut total, définitif, que le Fils de l'homme apportera sur la terre. Le deuxième sens de l'espérance, c'est le don de la gloire que Adam n'a pas su recevoir. Tout d'abord, le premier aspect de cette espérance est celui du salut. Saint Jean va présenter ce salut au long de tous les chapitres de l'Apocalypse. Le chapitre, le combat est eschatologique, il durera jusqu'à la fin du monde. L'acharnement de Satan sera d'autant plus virulent qu'il se sentira jugé et déjà condamné. L'Église va vivre ce combat pendant que ceux qui ont donné leur vie pour le Christ ne cessent d'élever leur voix, qui demandent que soit faite justice à eux-mêmes, les élus de Dieu. Jusque à quand, Maître, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Apocalypse 6, 10. Et saint Jean dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu, le témoignage qu'ils ont rendu. 6, 9. À l'espérance du salut, Jean ajoute l'espérance de la gloire. Jean discerne le sens profond du mystère du Christ, qui, selon lui, est de conduire l'homme de désir, dans la nouvelle Jérusalem. C'est la fin de l'histoire. Et ce sera de révéler la gloire de Dieu dans son propre royaume. Et cela, pour cela, Dieu se donne donc par le Christ une nouvelle communauté, la description de cette nouvelle communauté qui montrera la gloire et qui est la réalisation définitive de l'espérance. C'est le monde divin de la Sainte Trinité qui a créé le monde comme une image du sien, où chaque personne divine a sa personnalité propre dans l'unité divine. Pour réaliser ce monde nouveau, le Saint-Esprit lui est nécessaire pour lui donner la force de l'espérance et de son accomplissement. L'Église l'appelle. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, que ce monde passe et tu seras tout en tous. » L'Épouse de l'Agneau appelle avec le Saint-Esprit la venue de ce monde nouveau. La communauté des fidèles qui ont suivi l'agneau jusque dans le sang offre comme une offrande de leur vie, offre leur vie en offrande. L'Apocalypse nous fait donc considérer avant tout la communauté trinitaire qui est avant tout lumière, amour et beauté. C'est la beauté qui est l'objet même de la vision. Dieu est avant tout à contempler et sa contemplation crée le bonheur éternel. La Jérusalem qui descend du ciel, c'est une épouse, parée de la beauté de son Créateur, son époux. Et l'espérance, maintenant, est de participer à cette vision bienheureuse. Elle est avant tout contemplation. Elle est au-delà de la justice, de la rétribution, de la miséricorde. Elle veut donner la participation à la gloire de Dieu. L'espérance, dans le livre de l'Apocalypse, est donc maintenant une vision du monde céleste, du royaume de gloire. C'est ce que dit l'Esprit aux Églises. Il vient, celui qui règne dans le royaume de la gloire. Et en même temps, s'accomplit l'unité pour laquelle le Christ est mort et ressuscité. L'unité du ciel et de la terre, unis dans une même louange éternelle. Dieu désormais sera tout en tous, et nous-mêmes nous pourrons participer à la louange de nos frères les anges. Car l'Église de la terre aura alors accompli sa mission. Sa vocation aurait été de rassembler le peuple de la gloire en offrant aux hommes de ce temps actuel les moyens de réaliser cette vocation, ce désir, cette espérance de la gloire. Et pour cela, l'Église aura, par la grâce du Saint-Esprit, et créer des sacrements qui nous mènent au royaume, car l'Eucharistie n'est simplement que la manifestation du royaume parmi nous. Alors, la vie présente sera maintenant vécue comme une attente du royaume. C'est le sens de l'espérance d'aujourd'hui. Une attente qui ne nie pas le temps présent et les devoirs envers lui, mais qui est l'espérance invincible de voir le Seigneur, de vivre en sa compagnie et en la compagnie de tous les élus, dans la gloire de Dieu. Le sens de notre vie est maintenant Christ, espérance de la gloire. J'avais pensé aussi que Marie pouvait nous apporter le témoignage d'une certaine espérance qu'elle a pu vivre. Alors comment, c'est une chose bien difficile, comment Marie a vécu aussi l'espérance. J'ai pensé que c'était pendant la période même où Joseph s'était aperçu qu'elle était devenue enceinte à son retour de chez sa cousine Élisabeth. À ce moment-là, Joseph va traverser une crise très douloureuse jusqu'au moment où Dieu interviendra par l'ange pour lui révéler le mystère de l'incarnation de Jésus. Pendant tout ce temps, Marie ne dit rien, rien de ce qui s'était passé, laissant à Dieu le faire. Il me semble que là, Marie a vécu effectivement une espérance douloureuse d'une certaine façon. Car combien cette épreuve a été certainement pour l'un et pour l'autre un temps douloureux d'attente de l'intervention du Seigneur. Marie a dû garder une constante espérance dans l'intervention divine pendant que Joseph vivait l'épreuve de la foi. Ce que Marie nous enseigne ici, c'est d'espérer jusqu'au bout, sans faiblir dans l'épreuve. Quand on a mis sa confiance en Dieu, c'est espérer contre toute espérance. Car le plus important, toujours, d'être certain que Dieu connaît la situation de crise qu'on traverse à ce moment-là. Et maintenir jusqu'au bout la foi et l'espérance est certainement le plus dur combat que l'homme doit mener pour garder sa fidélité dans la bonté du Seigneur, qui ne permet d'épreuve que pour le bien final de la personne. C'est aussi, d'une certaine façon, dans notre famille franciscaine, que l'on trouve un certain moment l'espérance que Claire a dû vivre, une longue attente, à l'occasion de sa demande du privilège de la pauvreté. Elle a certainement mené un combat pour obtenir un privilège de la pauvreté pour sa communauté qu'elle n'obtiendra qu'à la fin de sa vie. Ce privilège était de pouvoir vivre sans privilège, laissant à Dieu de donner les moyens d'assurer la vie et l'avenir de la communauté. Et ce fut le pape Innocent III qui lui accordait ce privilège. Mais elle a dû patienter pour que soit assuré l'avenir de la communauté, pas seulement le présent, mais son avenir. Et ce fut le pape Grégoire IX qui lui accorda le privilège de la pauvreté. Ainsi, après avoir mené ce combat toute sa vie, Claire peut dire en fin de vie, « Pars, mon âme, en toute sécurité, car tu as un bon guide pour la route. Pars, car celui qui t'a créé t'a aussi sanctifié. » Il t'a toujours gardé, aimé, d'un tendre amour. Comme une mère aime son fils, sois béni, Seigneur, toi qui m'as créé. Thérèse disait aussi la même chose, je ne meurs pas, mais je rentre dans la vie. Eh bien, je termine avec un dernier témoignage, celui de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix nous dit que toute possession est opposée à l'espérance, car cette vertu a pour objet ce que l'on ne possède pas. L'âme ressent le désir de posséder l'objet de sa foi, qui est Dieu, et c'est ce manque créé en elle qui fait un mouvement positif vers lui. Saint Jean de la Croix écrit « Une âme qui n'espère plus, soit parce qu'elle se trouve comblée, satisfaite, parce qu'elle possède, soit parce qu'elle a renoncé à posséder davantage, a perdu tout dynamisme et n'avance plus. » Le dynamisme de l'espérance peut s'exercer de deux façons. Il peut produire le mouvement active, positive de l'âme qui s'élance vers Dieu pour le saisir. Ou bien un autre moment, celui où l'âme est paralysée par une force qui émane de Dieu, une force cachée mais présente. Alors, dans ce cas, l'âme ne peut plus que gémir, soupirer ardemment, silencieusement. Dans le premier cas, l'âme saisit Dieu en se portant vers lui, alors que dans le deuxième temps, elle l'attire à elle par ses gémissements. Ce mouvement de l'âme vers Dieu rend compte de sa progression vers lui. Après la purification des sens de la nuit obscure, l'âme est entrée dans l'abandon en laissant Dieu agir en elle. L'espérance est alors la force qui ne connaît que Dieu, quelles que soient les faiblesses. Elle est pure de toute autre recherche. Elle ne veut que Dieu, en lui-même. C'est son but absolu. Eh bien, voilà ce que nous rappelle Saint Jean de la Croix. Et je terminerai cette difficulté, c'est difficile.